Ce soir, attendez-vous à une visitation du Seigneur. C'est lui qui agit ce soir. C'est l'étape 7 ce soir. C'est l'étape où nous disons, Seigneur, voilà, maintenant nous nous attendons à toi. Et ce qu'on retient ce soir comme phrase, c'est que chacun va recevoir suivant sa foi. Qu'il te soit fait suivant ta foi. Ce soir, tu mets ta foi en Jésus. Ce soir, tu crois que Dieu peut tout faire dans ta vie. Et à l'instant même, il peut te guérir. Dieu est le Dieu de l'infini. Dieu est le Dieu de l'univers. Dieu n'a pas de limite. Nous, nous sommes limités. Nous, nous avons une intelligence et nous avons été faits dans un cadre temporaire, temporel, un cadre géographique. On n'a pas l'intelligence de Dieu. On ne comprend pas tout. Et on a besoin de la foi pour saisir les vérités spirituelles, les réalités spirituelles. Sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Mais sans la foi, on ne peut pas comprendre les réalités spirituelles. Dieu n'est pas un homme. Dieu est Dieu. Dieu a créé l'univers. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous représenter l'univers. Dieu est l'alpha, l'oméga. Nous-mêmes, nous ne savons pas où est l'alpha. Nous ne savons pas où est l'oméga. Nous-mêmes, nous n'avons pas cette prétention, nous n'avons pas ce pouvoir de comprendre toute cette création. Nous sommes obligés de passer par la foi. Quand le Seigneur dit dans le psaume 139 qu'il t'a créé avant la fondation du monde, sans la foi, on ne peut pas comprendre ce verset-là. On ne peut pas comment le Seigneur a pu nous créer avant la fondation du monde. C'est impossible pour nous. Et pourtant, c'est ce qu'il dit. Il dit qu'il te connaissait par ton prénom. Il t'a créé avant la fondation du monde et tous tes jours sont inscrits dans le livre de vie. Amen. Et c'est par la foi qu'on peut saisir ces vérités spirituelles. Qu'il te soit fait ce soir, selon ta foi. À l'étape précédente, nous avons accepté de lâcher prise avec nos défauts, nos dysfonctionnements. C'est fort ? C'est fort. Là, c'est moins fort ? C'est mieux ? Ok. Nos mauvaises habitudes. Nous allons maintenant demander à Dieu d'enlever tous ses défauts et ses dysfonctionnements. À ta conversion, Dieu t'a transporté dans son royaume. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu n'es plus ce que tu étais avant de rencontrer le Seigneur. Maintenant, tu es une nouvelle créature. Par la foi, saisis que maintenant, Dieu a transformé ton cœur. Tu n'es plus cette personne qui avait les défauts de ton père, de ta mère, de ton arrière-grand-père, de ton arrière-grand-mère. Tu n'as plus cette lignée en toi. Le sang de Jésus a tracé une ligne dans ta vie. Il y a un avant et un après. Et aujourd'hui, tu es libre. Tu es libre aujourd'hui. Tu n'es plus sous le poids de l'esclavage du péché. Seigneur, augmente-nous la foi, va dire les disciples à Jésus. Quand ils vont entendre parler de Jésus, ils vont sentir tout d'un coup que c'est tellement grand ce que le Seigneur leur annonce qu'ils vont juste dire « Seigneur, augmente notre foi ». On a besoin d'une foi plus grande encore pour comprendre toutes ces vérités. Tu as été transporté du royaume des ténèbres au royaume de la lumière, le royaume de Dieu. Et tu es là, tu es sur le chemin et ta foi, elle va en augmentant. Amen. Ta foi augmente. Au fur et à mesure que tu es en communion avec sa parole, au fur et à mesure que tu es en communion avec lui, ta foi augmente. Et en augmentant ta foi qui augmente, tu saisis de plus en plus toutes ces vérités spirituelles. Maintenant, au vu de ta croissance spirituelle, voilà ce qui se passe. Les choses anciennes sont en train de passer petit à petit. C'est un processus. C'est un chemin et les choses sont en train de devenir nouvelles. Petit à petit, il y a une transformation qui se fait dans ton cœur. Le principe de l'étape 7, nous avons humblement demandé à Dieu de faire disparaître nos défauts. Un travail de conviction, de lâcher prise et de foi s'est effectué en nous à l'étape précédente. Nous sommes arrivés à la conclusion que nous devons laisser faire Dieu en lui obéissant totalement. Par conséquent, il s'agit maintenant de passer à l'action en lui demandant d'intervenir humblement, comme nous l'avons chanté. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin que tu interviennes dans ma vie. Seigneur, change-moi, transforme-moi. Et attendez-vous à ce que le Seigneur le fasse. Mettez votre foi dans le Seigneur. Cette étape demande de votre part le plus grand acte d'humilité qu'on ne vous ait jamais demandé. Cédez à Dieu le contrôle de votre vie en vue de son rétablissement en mettant l'accent sur l'obéissance à sa parole. Je décide de m'abandonner à Dieu. Je décide de dire, Seigneur, je n'opposerai pas de résistance à ce que tu veux faire de moi. Je veux obéir à ta parole. Change-moi. Je ne veux plus être comme j'étais avant. Je veux être cette nouvelle créature. Par la foi, tu décides d'obéir à Christ et de lui faire, tu lui fais une fois, totalement confiance. Qu'il te soit fait selon ta foi. Et tout est possible à Dieu. Dieu n'est pas un homme, comme je l'ai dit tout à l'heure. À Dieu, tout est possible. Dieu est le Dieu de l'infini. Dieu est le Dieu de l'univers. Dieu est le Dieu parfait qui peut tout faire. Quand vous avez cette phrase-là, qu'il te soit fait selon ta foi, c'est une phrase extraordinaire où Dieu voit la foi d'un centenier qui dit « T'as pas besoin de venir à la maison. D'où tu es là, tu peux dire simplement « Serviteur, tu es guéri. » Et ça suffira, mon serviteur sera guéri. Il avait une foi, une telle foi qu'il savait que Dieu pouvait tout faire de là où il était. Et le Seigneur a été ébahi. Il a dit « Waouh, j'ai jamais vu une telle foi en Israël. » Et le serviteur a été guéri. Amen. On est appelé à vivre par la foi, à ne pas intellectualiser notre relation avec Dieu. Parce que sinon, on sera limité. On n'y arrivera pas. Parce que c'est comme ça. Dieu ne nous a pas donné un cerveau, une intelligence pour comprendre toutes ces choses-là. Il nous a donné la foi. Et c'est la foi qui nous permet, qui permet de nous emparer de toutes ces promesses de Dieu. Venez à moi comme des petits enfants et croyez. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. C'est l'amour de Jésus qui vit en toi. Et c'est lui qui dirige ta vie maintenant. C'est ça la nouvelle naissance. C'est ça être devenu une nouvelle créature. C'est une décision que tu prends ce soir à la lumière de sa parole, suite à une conviction que Dieu met dans ton cœur à l'instant même. Ta croissance et ta restauration vont faire appel à l'humilité et à la foi. Il y a une décision à prendre, et c'est ce qu'on fait ce soir. Une décision parce qu'on est convaincu. On est convaincu que la parole de Dieu est la vérité. Et c'est par rapport à cette parole de Dieu qui nous éclaire, qui éclaire notre chemin, qui quand on a fait l'étape où nous avons revu notre histoire et que Dieu nous a éclairé sur tout ce qui nous est arrivé, que nous ne sommes pas responsables des effets du péché sur nous, qu'il y a eu des conséquences du péché sur nous, mais que maintenant, nous disons non au péché parce que Dieu nous donne la puissance, la capacité de résister au péché. Et c'est à la lumière de ces Écritures que nous décidons d'obéir, que nous prenons une décision de suivre sa parole. Une prise de conscience des réalités spirituelles. Les réalités spirituelles, c'est le mensonge que l'ennemi t'a fait croire. C'est les effets du péché. Tout ce que tu as cru depuis que tu es petit, parce que tout le monde est dans les ténèbres. Tout le monde ne connaît pas cette parole-là. Il faut venir à la parole de Dieu pour avoir connaissance de tout ça. Mais tant que tu n'es pas dans la connaissance de tout ça, tu vis comme tout le reste. Et le monde est sous la domination de l'ennemi de notre âme. Et cette domination-là nous entraîne à croire à des mensonges. L'ennemi nous donne des mensonges sur nous. Une prise de conscience des réalités spirituelles, mensonges et péchés, m'amène à refuser d'être le produit des circonstances de ma vie. Oui, on a tous connu des circonstances malheureuses dans notre vie. Et ça a eu des conséquences sur nous, des conséquences dans notre comportement, des conséquences dans notre manière d'agir, dans notre manière de réagir. Oui, mais maintenant, je ne veux plus être prisonnier de ça. Une nouvelle attitude, une nouvelle façon de faire, parce que je refuse d'être défini par les circonstances de ma vie. Je refuse d'être défini par ce qui m'est arrivé dans ma vie. Je veux que ça soit le produit de mes décisions maintenant. C'est moi qui décide maintenant, à la lumière des Écritures, ce que je vais faire de ma vie. Mais je refuse que les blessures de ma vie décident de qui je suis, décident de mes réactions, décident de, que les blessures que j'ai endurées n'arrivent pas à décider pour moi par rapport à la colère, par rapport à l'amertume, par rapport à la façon de me conduire. Je ne veux plus de ça. Je veux décider de ma façon d'agir, de parler, de me comporter. Nous avons humblement. L'humilité nous permet d'accepter la vie avec ses bons côtés comme avec ses aspects les plus éprouvants. L'humilité, c'est une valeur qui nous amène dans un état de paix, de sérénité, où je fais la paix avec moi-même, avec mon humanité. Je reconnais la vérité des Écritures. Je reconnais mon humanité. Je reconnais ce qui m'est arrivé dans la vie. Je reconnais mes limites aussi, que je ne suis pas parfait. Mais je fais la paix avec tout ça. Parce que j'accepte cette réalité quand on vient dans la présence de Dieu, quand on est en contact avec ces Écritures-là, on comprend que le péché nous a tous touchés et que nous sommes privés de la grâce de Dieu. Et que c'est le péché qui est la cause de tout ça. Alors que nous avons mis l'emphase sur d'autres êtres humains, de façon à ce qu'il y ait toujours la guerre entre les êtres humains, de façon à ce qu'il n'y ait jamais de paix entre les êtres humains. On croyait ça. En réalité, c'est le péché qui est à l'origine de tout ça. Dieu a horreur du péché, mais il aime le pécheur. Et nous, par la croissance, petit à petit, nous comprenons, et nous l'avons vu pendant ces premières étapes, que l'importance, au contraire, ça va être de soigner nos relations, de faire attention à nos relations, de ne pas tomber dans ce piège qui est de rentrer en guerre les uns avec les autres. Non, il ne faut pas qu'on se trompe d'adversaire. Paul dira, on n'a pas à se battre contre la chair et le sang. On a à se battre contre ces autorités diaboliques qui sont derrière tout ça et qui nous influencent, nous, les autres, tous influencés, et qu'on finit par se blesser, qu'on finit par faire du mal, qu'on finit par faire des choses qu'on ne voudrait pas faire et qu'on se retrouve à faire. Et parce qu'on est des êtres humains et qu'on ne connaissait pas la vérité, alors on est rentré en guerre aussi, nous aussi, avec les autres. Et c'est un cercle infernal. C'est l'histoire de l'humanité. Mais aujourd'hui, on reconnaît tout ça. Humblement, on reconnaît qu'on fait la paix avec notre humanité. Oui, j'ai fait des erreurs. Oui, je ne suis pas parfait. Mais oui, Dieu m'a sauvé. Dieu m'a restauré. Dieu m'a rétabli. Et aujourd'hui, je suis, par la grâce de Dieu, une belle créature, une belle personne. Parce que Dieu m'a transformé. Amen. C'est à cet endroit que je m'accepte tel que je suis. J'accepte d'avoir subi, d'une manière ou d'une autre, les effets et l'impact du péché dans ma vie. Par la révélation des Écritures, je proclame que la peur, la honte, la culpabilité doivent changer de camp. Et que le véritable responsable de ces injustices et de tous ces malheurs, c'est l'ennemi de mon âme. On doit réaliser qui est le véritable responsable de toutes ces guerres, de toutes ces guerres dans mon couple, la guerre dans ma famille, la guerre les uns avec les autres. Il y a un ennemi de nos âmes qui cherche qui il va dévorer et qui ne veut pas qu'il y ait de l'amour entre les êtres humains. et qui fera tout pour détruire l'amour qu'il y a entre les êtres humains. Enfin du repos, je n'ai plus besoin de faire tous ces efforts pour être une autre personne, d'aller à l'épuisement pour montrer aux autres une image parfaite, une espèce d'aliénation de folie où l'échec est insupportable, où faire une erreur m'amène à être une erreur, où ne pas savoir est une honte qui définit la pauvre personne que je suis. Mensonge, mensonge, mensonge. Je suis ce que je suis. Je n'ai pas à être une autre personne. Je m'accepte comme je suis et Dieu me transforme de mieux en mieux. Je proclame aujourd'hui que je ne me laisserai plus manipuler. Ce qu'on a dit sur moi, ce qu'on m'a fait subir, ce que les circonstances de la vie m'ont fait traverser comme épreuve, ne me définissent plus aujourd'hui. Amen. Il n'y a plus d'étiquette sur moi. Je ne suis pas ce que les autres ont dit sur moi. Je suis ce que Dieu a dit sur moi. Amen. La liberté, le vrai repos. On m'accepte comme je suis et je n'ai pas honte de ce que je suis. Et je suis transformé de gloire en gloire. Amen. Toute cette vie de misère a créé en moi tout un registre d'émotions. Et aujourd'hui, je suis en capacité de faire la part des choses. Ces émotions ne doivent plus conduire ma vie. Ressentir n'est pas consentir. Je ne consens plus à ces émotions qui dirigeaient ma vie. 2 Corinthiens 10, 5 dit ceci. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Tout ce qui est difficile à transformer, tout ce qui essaye encore de me rendre esclave, tout ce qui essaye encore de me tenir, je l'amène à Christ. Et je dis, Seigneur, délivre-moi de cette pensée. Délivre-moi de cette emprise. Délivre-moi de ces choses qui voulaient me rendre prisonnier, qui voulaient me mettre encore sous emprise là. Toutes ces pensées-là, je les amène à Christ. Et Christ me délivre de ces pensées-là. L'ennemi veut encore avoir un pouvoir sur toi en te faisant croire à travers le ressentiment de tes émotions que rien n'a changé, que rien ne changera jamais et que tu seras toujours la même personne qui ne mérite pas d'être aimée, qui ne mérite pas d'être heureuse. Mensonge, mensonge et mensonge. Nous proclamons les mensonges de l'ennemi. Tout cela est faux. Ce sont des mensonges de l'ennemi que tu dois dénoncer chaque jour en criant à ton ennemi de toutes tes forces que Jésus t'a purifié à travers son sang. Que les choses anciennes sont passées et que tu es maintenant une merveilleuse créature par la puissance de celui qui agit en toi. Amen. On peut lui crier, je suis une belle créature. Amen. Parce que c'est Dieu qui le dit. Et si Dieu le dit, c'est que c'est vrai. Amen. Ce n'est pas tes émotions qui doivent te définir. Ce n'est pas ce qu'on a dit sur toi qui doivent te définir. Ce n'est pas les circonstances malheureuses de ta vie qui doivent te définir. Un jour, mauvais endroit, mauvais moment, mauvais endroit, mauvaise. Ça arrive, ça fait partie de la vie. Mais ce n'est pas ça qui te définit. Ce n'est pas ce qui t'est arrivé à l'école qui te définit. Ce qui va te définir dans la vie, c'est ce que Dieu pense de toi. Et tu sais ce que Dieu pense de toi ? Dieu prend plaisir en toi. Amen ! Est-ce que tu es capable de lâcher prise et de dire, oui Seigneur, je le crois. Par la foi, je crois Seigneur que tu prends plaisir en moi. Et si Dieu prend plaisir en nous, est-ce que nous, on peut aussi être fiers de nous ? Malgré ce qu'on a dit sur toi, malgré ce que tu as subi, malgré ce que les gens ont dit sur toi, malgré les circonstances de la vie, tout ça, ça fait partie du péché. Et ce n'est pas le péché qui te définit, c'est Dieu qui te définit. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Amen. Prends l'habitude de dire, quand ça ne va pas comme tu veux, c'est pas grave, j'ai mon essentiel. Amen. Je sais qui je suis. Je ne veux pas perdre ma joie et ma paix pour des choses qui ne sont finalement que des choses terrestres. Mon espérance est avec Christ. Il y a des choses plus importantes que des quiproquos, que des brouilles, que des choses qu'on sait, on s'est peut-être mal parlé et on ne veut plus perdre notre paix pour des choses comme ça. Nous avons notre essentiel. Le reste est secondaire. Amen. Si tu es dominé, que tu es esclave d'un besoin de perfectionnisme, relâche ce besoin en le donnant à ton Papa Céleste. Ce sont des pensées toxiques que le diable utilise pour te maintenir en esclavage. Travaille, fais des choses dans l'excellence, mais ne sois plus exigeante avec toi-même. Ne sois plus ton propre bourreau. Accepte ton humanité. Accepte que ce que tu le fais du mieux que tu peux. Et c'est très bien. Amen. Ne cherche pas la perfection qui est un mythe qui n'existe pas. Revois toutes ces conceptions. Ce que tu es, c'est très bien ce que tu es. Tu n'es pas parfaite ? Alléluia. Tu es un être humain. Bienvenue sur cette terre. Fais la paix avec le bourreau qui est au fond de toi. Et dis-lui, j'ai plus besoin de toi. J'ai plus besoin de toi. Je suis comme je suis et je suis très bien comme je suis. Dieu m'accepte comme je suis. Amen. Pardonne-toi. Aime-toi en tant que créature de Christ afin d'aimer les autres. Accepte tes erreurs, tes imperfections qui n'ont plus le pouvoir de te définir. Entre dans le repos de Dieu. Pratique l'amour de Dieu avec les autres. Sois plus douce avec ton entourage. Miséricordieux, compatissant. C'est ça la vraie vie. Soigne tes relations. Cool. Tu es bien. Tu n'as pas besoin d'être mal dans ta peau. Tu es bien. Mais au contraire, parce que tu as le privilège d'appartenir à Dieu, parce que tu es une créature de Dieu, parce que tu es une fille, un fils de Dieu, parce que tu as tout ça, alors sois miséricordieux et compatissant avec les autres. Parce qu'eux n'ont pas cette chance-là. Et oui, on est souvent dur avec les autres, mais les autres ne connaissent pas Dieu. Mais nous qui connaissons Dieu, on n'a pas à être dur avec les autres. Laissons-les parler, laissons-les penser ce qu'ils pensent. On n'a pas à être touché par ce qu'ils disent. Ils disent des choses, ok, et alors ? Et alors ? Laisse parler. Ils n'ont pas cette connaissance que Dieu a. Et qui tu vas croire ? Tu crois Dieu ou tu crois les hommes ? Tu crois Dieu ou tu crois ces gens-là ? Non ! Aime-les. C'est pas grave. Je sais qui je suis. J'ai pas besoin d'être validé sans arrêt par les êtres humains. Parce que ça marchera pas. Ça ne marchera pas. Tu n'obtiendras pas ce que tu veux. C'est illusoire. Ok ? Il faut prendre les êtres humains comme ils sont. Et les aimer comme ils sont. Tu garderas ta paix parce que tu aimes les êtres humains comme ils sont. Tu ne peux pas exiger quelque chose des êtres humains, de changer, qu'ils t'aiment comme toi tu veux, pourquoi il a dit ça, pourquoi il a parlé comme ça, pourquoi il a fait ça. Ça, c'est des pièges de l'ennemi pour t'emmener à perdre ta paix, pour t'emmener à briser les relations. Mais sois plus fort que ça. Sois plus spirituel que ça. Et dis, Seigneur, je ne veux pas tomber dans le piège de l'ennemi. Et tu diras comme Christ à la croix, Père, pardonne-lui. Il ne sait pas ce qu'il fait. Père, pardonne-la. Elle ne sait pas ce qu'elle dit. Père, pardonne. Amen. On est capable de faire ça par la puissance de celui qui agit en nous. Par la puissance du Saint-Esprit. Si nous marchons par l'Esprit, alors oui, nous pouvons. Quand on rate ça, c'est qu'on marche par la chair. Et on se fait piéger par l'ennemi. Est-ce qu'on est d'accord avec ces gens-là ? Non ! Est-ce qu'on peut leur dire qu'on n'est pas d'accord ? Oui ! Mais on n'est pas obligé de se fâcher. On n'est pas obligé de briser la relation. Non ? On peut juste dire, je ne suis pas d'accord avec toi. C'est tout. Et fin de la discussion. Pas la peine de palabrer pendant une heure. Ça ne servira à rien. On dit simplement que je ne suis pas d'accord avec toi. Mais on a le droit de ne pas être d'accord. Je pense, est-ce que vous êtes d'accord qu'on n'a pas le droit d'être, on a le droit d'être de ne pas être d'accord, hein? C'est un minimum quand même. Donc on n'est pas d'accord, mais ce n'est pas grave. Est-ce que parce qu'on n'est pas d'accord, on doit se fâcher? Pourquoi? Si on est dans la même famille, si on est proche, si c'est des gens qu'on est appelé à côtoyer régulièrement, alors on se fâche? Ben, il ne restera plus grand monde à la fin. Vous comprenez? Parce que c'est tout le temps qu'il y aura des quiproquos, c'est tout le temps qu'il y aura des paroles mal placées, c'est tout le temps que quelqu'un agira et qu'il n'aurait pas dû agir comme ça. C'est tout le temps, c'est notre vie sur cette terre. C'est à nous de comprendre ça, c'est à nous de savoir qui nous sommes en Jésus-Christ, c'est à nous de savoir que notre valeur, elle est en Jésus-Christ, elle est dans ce que dit Jésus sur nous, pas un homme. Parce qu'un homme, un jour, il va vous mettre là, et demain, il vous met là. Et après-demain, il va vous remettre là. Mais votre vie, ce n'est pas du yo-yo. Vous n'êtes pas un baromètre. Et en fonction de ce qu'on vous dit, vous êtes bien. Et en fonction de ce qu'on vous dit, vous êtes mal. Non. On est bien parce qu'on appartient à Christ. Et les gens sont comme ils sont. Amen. Dans Michée 6:8, il est écrit ceci. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice de Dieu, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Amen. Que tu aimes la miséricorde, que tu aimes pratiquer la miséricorde. Quand Jésus, il donne un sermon, juste après le sermon de la montagne, il voit la foule. Il voit la foule, c'est des gens qui ne connaissaient pas Dieu. Enfin, ils connaissaient le Dieu de la religion, mais ils n'avaient pas cette relation avec Christ. Ils voient les gens, et là, qu'est-ce que c'est marqué? C'est marqué que Jésus était ému de compassion. En grec, c'est « splagesome ». Ça veut dire que ses tripes, c'était dans ses tripes, il était ému parce qu'il voyait des gens sans berger. Il voyait des brebis sans berger. Et il était malheureux de voir ces gens-là. Eh bien, dites-vous bien que c'est pareil pour vous. Vous avez la chance d'être des enfants de Dieu. Vous avez la chance de connaître Dieu. Vous avez la chance d'avoir été renouvelé. Vous avez la chance d'avoir été transporté dans le royaume de Dieu. C'est des privilèges, tout ça. Eux ne l'ont pas. Eh bien, si on veut soigner les relations, si on veut préserver nos relations, c'est à qui, d'après vous, d'être miséricordieux et compatissant? Mais c'est à nous. On ne peut pas se mettre au même niveau qu'eux. On doit juste prendre du recul et dire « Oh, 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 on se calme, on baisse nos émotions. Hein? On demande à Dieu de guérir nos émotions, ça va. Okay? » Et on dit « Seigneur, pardonne-lui, parce que le pauvre, il ne te connaît pas. Il ne sait pas qui tu es. Il n'a pas cette chance que j'ai, moi, de te connaître. » C'est comme ça qu'on grandira. C'est comme ça qu'on pourra nous aimer les uns les autres. C'est cette croissance-là qu'on a besoin. Et c'est comme ça qu'on gardera notre paix. Inattaquable, notre paix. Parce qu'elle est en Jésus-Christ et elle est à l'intérieur de nous. Nous avons besoin de cette humilité dans nos vies pour reconnaître que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Nous dépendons de sa puissance pour nous libérer de l'emprise du mal, de nos conceptions erronées et pour aimer les autres tels qu'ils sont. Tels qu'ils sont. Aimer les autres tels qu'ils sont, c'est agapé. C'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu aime. Il ne juge pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il aime, point barre. On a besoin pour avoir cette paix en nous, pour que nous soyons dans une vie de sérénité, on a besoin d'aimer les autres comme ils sont. Amen. Encore une fois, je me répète, ce n'est pas de l'affinité. Ce n'est pas un amour par affinité. On ne va pas forcément aller boire un café avec tout le monde. Ça, déjà, ça prendrait beaucoup de temps. Et on ferait une crise à la fin, trop de café. Non, on a besoin d'aimer, ça veut dire qu'on n'a pas de mauvais jugement. Ça veut dire qu'on n'a pas des mauvaises pensées. Ça veut dire qu'on aime les gens et on ne commence pas à les juger sur leur apparence. On ne les juge pas s'ils sont gros, s'ils sont petits, s'ils sont mal habillés, s'ils sont bien habillés. On ne voit pas ça comme ça. On aime les gens et on ne juge pas. Amen. Et quand ils ne sont pas d'accord avec nous, eh ben, ce n'est pas grave. Ils ne sont pas d'accord, ce n'est pas grave. On a besoin de Dieu pour sa souveraineté sur nos vies. Nous ne pouvons pas tout comprendre sur cette terre. On ne peut pas tout expliquer dans la vie. Accepter sa souveraineté, c'est accepter de lui faire totalement confiance et de lâcher prise avec les circonstances de la vie, malheureusement, malheureusement, bien souvent malheureuse. C'est un pléonasme. Et oui, on ne comprend pas tout dans la vie. Vous êtes d'accord avec moi ? Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Ok ? On ne sait pas pourquoi c'est arrivé. On ne sait pas, Dieu aurait pu intervenir, il n'est pas intervenu. Ok, on ne sait pas. Est-ce qu'on a la prétention, nous, de tout comprendre et de dire, mais pourquoi, pourquoi, pourquoi ? Non, on ne l'aura pas. Il faut faire confiance à Dieu. Il faut dire, Seigneur, je ne comprends pas tout. Mais je sais que tu veux le meilleur pour nous. Alors, on fait confiance. Et notre vie, notre vie finale, notre destinée, n'est pas sur cette terre. Nous, notre destinée finale, elle est là-haut. Il y a une maison qui est préparée pour chacun d'entre nous. Et c'est ça l'essentiel. Le reste sur cette terre, malheureusement, ben, il faut accepter. Il faut accepter la vie qui est difficile sur cette terre. Et on ne comprendra pas tout. Nous avons besoin d'avoir un cœur enseignable qui sait remettre en question ses certitudes acquises à travers le savoir transmis par cette société. Ta référence, désormais, c'est la parole de Dieu. C'est elle qui va transformer ton cœur. Et un cœur transformé, c'est une vie transformée. Amen. Un cœur enseignable. Un cœur qui lit la parole de Dieu et qui remet en question des choses qui, pour lui, étaient définitives. Non. C'est la parole de Dieu qui est définitive. C'est elle qui t'instruit. C'est elle qui te dit les choses. Et ce n'est pas ce que toi, tu crois, ou ce n'est pas tes dysfonctionnements qui doivent prédominer. Mais c'est ce que dit la parole de Dieu. L'humilité résiste à une vision déformée de qui nous sommes. Elle s'oppose à une perception grandiose de nous-mêmes, mais aussi à la haine, au mépris de soi. Par rapport à tout ce qui a pu nous façonner dans la vie, par rapport à tout ce qu'on a traversé, on peut avoir une certaine image de nous. Soit très, très, très positive, et ça s'appelle de l'orgueil, ou soit au contraire très méprisable. Mais ça, c'est à remettre en question, parce que ce n'est pas la réalité. Notre réalité, c'est vraiment ce que Dieu dit sur nous. Ça va, Jean-Roger ? Ouais, ça va, ouais. Tu t'es cogné ou quoi ? Non,
non, non, un petit bécial de
matin. Oh, bon, ben ça va, alors tout va bien. On a besoin d'arrêter de se battre avec, quelquefois avec nous. Parce que quelquefois, eh ben, on souffre intérieurement. On se bagarre avec nous-mêmes parce qu'on n'a pas une belle image de nous-mêmes. Et c'est une erreur de se battre comme ça. Ce n'est pas ce que dit la parole de Dieu. Alors quelquefois, il faut lâcher prise. Il faut lâcher prise parce que soit tu fais confiance à Dieu, soit tu fais confiance à ce qui est écrit dans sa parole, ou soit tu te fais avoir par l'ennemi et les mensonges de l'ennemi. Ce qu'il veut te faire croire. Alors certains me disent, « Ouais, Bertrand, mais j'y arrive pas. » Oui, eh bien, amène les pensées à Christ et dis-toi bien que tout ça, c'est les mensonges de l'ennemi parce qu'il veut te diminuer, parce qu'il veut te dévaloriser, parce qu'il ne veut pas que tu te relèves. Il veut que tu restes mal dans ton malaise. Et c'est à toi de saisir. La parole de Dieu dit, « Ce sont les violents qui s'emparent des promesses de Dieu. » C'est à toi de saisir la vérité par la foi. Par la foi. Je saisis par la foi. Au nom de Jésus, ma dépression n'est plus. Parce que les causes de ma dépression sont basées sur un mensonge. Il faut remettre tout ça en question à la lumière de la parole de Dieu. À la lumière du péché sur cette terre. Il faut que tu arrêtes d'être prisonnier de ton passé, d'être prisonnier de ce que le péché a fait en toi. Il faut regarder à Jésus qui te dit qui tu es vraiment. Et comme on a vu la dernière fois, en Christ, Tu as tout en Christ. Tu as le fondement, et le fondement, c'est que tu es aimé. C'est fondamental de se sentir aimé d'un amour inconditionnel. C'est fondamental de savoir que nous avons de la valeur. Nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. C'est fondamental. C'est fondamental de savoir que nous ne sommes jamais seuls, que Christ est avec nous jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est les fondements. Ça, c'est les vrais fondements. Parce que les fondements de cette société, ce sont des fondements superficiels. Ce sont des fondements qui peuvent s'arrêter du jour au lendemain, basés sur l'argent. Aujourd'hui, tu as de l'argent, demain, tu n'en as plus. Basés sur ton physique, sur ta beauté, mais ça ne va peut-être pas durer. Basés sur tes talents, oui, mais à condition de ne pas avoir d'accident, à condition que tout se passe comme tu veux. Tout ça, c'est superficiel. Il suffit que ça s'arrête un jour et alors tu n'es plus rien. Parce que tu avais basé ça sur les valeurs de ce monde. Mais en Christ, ce sont des valeurs pour l'éternité. C'est tes fondements pour l'éternité. Dieu t'aime, il ne changera pas d'avis. Il t'aime, point barre. La valeur, il l'a montré à la croix, il s'est sacrifié pour chacun d'entre nous. Nous avons de la valeur. Même si tu as un accident, même si tu as une erreur, même si pour tes parents, tu n'aurais jamais dû arriver sur cette terre. Mais pour Dieu, il avait déjà prévu que tu sois là, avant la fondation du monde. Waouh ! Et tous tes jours sont inscrits sur le livre de vie. Si tu te sens seul avec Dieu dans ta vie, tu ne seras plus jamais seul. Peut-être que les hommes t'abandonneront. Peut-être que tes amis te lâcheront. Peut-être que tu connaîtras le rejet. C'est possible, tout est possible sur cette terre. Mais lui, Dieu, ne t'abandonnera jamais. Ce sont ces valeurs-là sur lesquelles tu peux t'appuyer parce qu'elles ne changeront pas. Et ça, c'est le vrai fondement. Elle ne nous incite nullement à nous rejeter l'humilité, à nous rabaisser, à nous déprécier. Pas du tout. Elle ne doit pas être confondue avec de la faiblesse ou une pauvre estime de soi, ni être associée à la résignation ou au manque d'ambition. Ce n'est pas la définition de l'humilité. Au contraire, l'humilité, c'est une qualité. Une qualité qui nous permet de ne pas être trop sûr de nous. C'est une qualité qui nous permet d'accepter les autres comme ils sont. C'est une qualité qui ne nous place jamais au-dessus des autres, mais qui voit les autres au-dessus de nous. Elle est le fait d'une identité bien ancrée en Christ. Quand je sais qui je suis en Christ, je ne crains plus rien. Tu peux dire ce que tu veux sur moi, je sais qui je suis en Christ. C'est une force de savoir qui nous sommes en Christ. L'humilité ne consiste pas à se sentir inférieur, mais à être affranchi de l'importance de soi et du regard des autres. Amen ! Quelle liberté d'être affranchi du regard des autres ! Ha ! On a tellement fait d'efforts pour plaire aux autres. Être affranchi du regard des autres. Je sais qui je suis et j'ai de la valeur et je suis aimé. Et j'ai de l'appartenance, ok ? J'ai plus besoin de me battre pour plaire à des hommes. Je suis aimé par les hommes, tant mieux. Mais je ne suis pas aimé par les hommes, tant pis. Comme je disais l'autre jour, ils ne savent pas ce qu'ils perdent. L'humilité nous protège et nous guide afin que nous ne péchions pas par excès d'orgueil ou que nous ne présumions pas de nos capacités par une confiance présomptueuse. L'humilité doit être pratiquée pour être maintenue. Elle doit devenir une discipline à développer. Elle fait partie de ces nouvelles valeurs du royaume où chaque jour nous pratiquons l'humilité pour ne pas tomber dans les pièges de l'orgueil. Elle a la facilité de reconnaître qu'elle ne sait pas tout et qu'elle a encore beaucoup à apprendre. Et ce qui est peut-être encore plus important, qu'il y a dans sa vie des choses aussi qu'elle doit désapprendre. Il y a des choses aussi dans notre vie, des habitudes, des automatismes qui doivent changer dans notre vie, des mauvaises habitudes. Elle le reconnaît tout ça, sans problème, et elle l'accepte. L'ouverture d'esprit n'est donc pas la manifestation de l'ignorance, mais l'expression du désir d'améliorer ses connaissances. Les gens humbles écoutent les autres. parce qu'ils assument qu'ils ont quelque chose à apprendre. Elles respectent l'opinion des autres sans être forcément en accord avec ces derniers. J'aime cette expression que j'utilise souvent, une main de fer dans un gant de velours. Amen. Une main de fer, c'est-à-dire je sais ce que je crois. Je connais les choses que Dieu m'a apprises. Mais comme on aura des gens en face de nous qui ne seront pas d'accord avec nous, eh ben, je leur dirai ou je les confronterai, je leur dirai que je ne suis pas d'accord, mais avec la douceur. La douceur. Ça vous va la douceur ? La douceur. Une main de fer dans un gant de velours. Je respecte les autres et je leur parle gentiment. Je n'ai pas besoin d'avoir le dessus sur eux. Je n'ai pas besoin de crier fort pour m'imposer. Je dis simplement non, je ne suis pas d'accord. Tu as le droit de ne pas être d'accord avec moi. Ce n'est pas grave. Mais je reste courtois. Je reste dans la douceur. Vous savez que c'est un fruit de l'esprit, la douceur. Donc vous l'avez. Il y en a qui rigolent, mais vous l'avez. Il est en vous. Le Seigneur vous l'a donné. C'est juste qu'il faut le pratiquer. C'est juste qu'il faut l'amener à l'utiliser chaque jour. Parce que quand on marche par la chair, on n'a pas besoin d'être doux. On a besoin de péter une coche, quoi. Péter un plomb, c'est facile. S'énerver, c'est facile. Par contre, de marcher dans l'esprit et de dire Seigneur, tu vois, elle m'énerve ou il m'énerve. Mais ça ne va pas changer mon attitude. Je vais dire que je ne suis pas d'accord et je reste dans la douceur. Amen. C'est facile. C'est facile. Amen, amen, amen. Mais oui, pourquoi vous vous énervez? Pourquoi elle vous énerve? Elle est différente de vous. L'autre personne en face, elle n'a pas des attitudes que vous, vous aimez. Eh oui, fait partie de la vie. Est-ce que c'est elle qui décide de votre paix intérieure? Est-ce que c'est elle? Vous lui donnez tellement de pouvoir qu'elle a le pouvoir de vous changer, de changer votre humeur, de changer votre paix, de changer votre joie, de gâcher votre journée. Mais quel pouvoir vous lui avez donné? Waouh! Vous reprenez le pouvoir. En nous sommeille souvent un enfant rebelle qui refuse de se soumettre au bon sens, ou encore un enfant blessé cherchant à alléger sa douleur par différents moyens. En d'autres occasions, c'est l'enfant naïf, vulnérable en nous qui, trahi, abusé, déçu par les autres en qui nous avions mis notre confiance, s'isole pour souffrir en silence. Au fur et à mesure que nous grandissons spirituellement, nous découvrons que nos attitudes immatures, nos réactions excessives, nos impulsivités, nos insécurités maladives, nos pétages de plomb ont besoin d'être transformés par un renouvellement de nos conceptions, les conceptions du royaume de Dieu. Amen. C'est ça le changement, c'est ça la transformation, c'est ça un cœur enseignable, c'est ça l'humilité. Et on le fait parce que Dieu est avec nous. Amen. Et on le fait parce que Dieu marche avec nous. À chaque fois qu'on se trompe de chemin, c'est que tout d'un coup, Dieu n'est plus avec nous. Nous avons retrouvé nos vieilles habitudes. Et cela, il n'y a pas beaucoup d'efforts à faire, hein, franchement. On les connaît. Péter un plomb, c'est facile. Mais rester dans le calme et dans la paix, on a besoin de Dieu. Il est douloureux de grandir. Mais à bien y penser, ce monde hostile n'est pas fait pour les adultes qui demeurent des enfants. On n'est pas dans ce monde-là. On n'est pas dans un monde de bisounours. On est dans un monde hostile. On est dans un monde difficile. On est dans un monde où le péché agit tous les jours dans la vie des êtres humains. Et nous rencontrons tous les jours des êtres humains. Donc, nous rencontrons tous les jours le péché. Et nous devons faire face au péché. Et pour nous, eh ben, on ne peut pas rester des enfants. Il faut grandir. Il faut comprendre tout ça. Nous devons grandir pour guérir, évoluer pour être libérés. Voilà pourquoi les 12 étapes demeurent essentielles. Ce sont essentiellement des étapes de croissance. Nous devons être armés pour affronter ce monde déchu. Nous devons être des guerriers d'élite. Nous ne devons plus être des enfants. devons connaître comment fonctionne l'être humain, comment il réagit et comment nous, nous réagissons aussi. Et comment ne plus se faire piéger. Comment réagir différemment pour ne plus se faire piéger. Première chose, conception de soi. Estime de soi. Si on n'a pas une bonne estime de soi, alors on se fera piéger parce que les autres nous disent. C'est automatique. On sera sensible à ce que les autres nous disent. Et on ne s'en sortira pas. On sera toujours malheureux. On sera des Calimero. Vous connaissez Calimero ? Hein ? C'est mon époque, je ne sais pas, je suis un peu vieux. Calimero. La vie est vraiment trop injuste. Et pourquoi ? Pourquoi moi ? Et pourquoi il a dit ça ? Et pourquoi il a fait ça ? On peut le faire tous les jours. C'est un choix. Mais ça ne change rien. Par contre, une fois qu'on a compris comment fonctionne l'être humain, on passe à une autre étape. Comment moi, je réagis par rapport à ce que l'autre dit, à ce que l'autre fait. C'est là que tout se joue. Tout se joue dans la manière dont nous allons réagir. Est-ce que je décide de garder ma paix ou est-ce que je perds ma paix ? Est-ce que je décide d'être affecté par ce que l'autre a dit ou pas ? Si j'ai une bonne estime de moi-même, si je suis ancré dans les bons fondements de Christ, alors je suis indéboulonnable. Oui. Parce que l'autre va essayer de me déstabiliser. OK ? Alors, des fois volontairement, s'il est méchant, et des fois involontairement, parce que la personne est prise dans les émotions et elle ne sait pas trop ce qu'elle dit. Pas grave. Dans les deux cas, il y a risque pour moi de déstabilisation. Si je suis ancré en Christ, il y a le bouclier de l'amour. La personne ne peut rien faire contre moi. Elle n'a aucun pouvoir. Elle peut dire ce qu'elle pense. Et je vais lui dire, bah, tu vois, je ne suis pas d'accord avec toi. Mais ce n'est pas grave. La vie est belle. Alléluia. Oui. Et si elle décide de s'énerver, ben elle s'énerve toute seule. Parce que moi, je n'ai pas envie de m'énerver. Et ce n'est pas elle qui décide pour moi. Elle s'énerve, je lui dis, mais si tu t'énerves, tu t'énerves toute seule. C'est pas grave. Moi, mais c'est pas grave. Elle fait ce qu'elle veut, c'est son problème. Moi, j'ai pas envie de m'énerver. Et elle n'arrivera pas à m'énerver parce que pourquoi ? Pourquoi elle m'énerverait ? Parce qu'elle pense des mauvaises choses sur moi. Mais c'est pas grave. Moi, je sais qui je suis. Moi, je suis ancré en Christ, moi. Elle peut dire, Bertrand, je t'aime pas. Je dis, oui, mais ok, c'est pas grave. Moi, je suis aimé. Je sais que je suis aimé. Donc, si une personne ne m'aime pas, ben écoute, tant pis pour elle. Elle me fait comprendre quoi ? Que je n'ai pas de valeur ? Mais c'est faux ! C'est archi faux ! Christ a donné sa vie pour moi. Qu'est-ce qu'elle va me sortir encore ? Qu'elle va me quitter, que je serai tout seul ? Mais je ne suis pas tout seul, Christ est avec moi jusqu'à la fin des temps. qu'est-ce qu'elle va me sortir encore ? Elle peut sortir tout ce qu'elle veut. Ce n'est pas grave. Je soigne mes relations. Elle peut se fâcher, mais moi, je ne me fâche pas avec elle. Parce que je suis en paix. Quand je sors de là, je suis en paix. Et je dis, merci Seigneur, je ne me suis pas énervé. Merci Seigneur. Oh là là, mais je l'aime, cette personne-là. Je l'aime. Et pourtant, elle n'a rien dit de bien pour moi. Mais ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est ce que toi, tu dis sur moi. Ça va ? C'est ça, grandir spirituellement. C'est ça, marcher par l'esprit et ne pas se laisser avoir par l'ennemi. Amen. L'humilité est le contraire de l'orgueil. Nous ne pouvons pas parler d'humilité sans parler de l'orgueil. Parce que c'est son versus, c'est le contraire. L'orgueil agit comme un agent polluant qui contamine tous les aspects de la nature humaine. C'est l'état de quelqu'un de présomptueux, animé d'un amour excessif de lui-même, et qui se croit supérieur aux autres. Évidemment, c'est pour compenser une faible estime de soi que les gens mettent le masque de l'orgueil. Si vous creusez, quand quelqu'un est présomptueux comme ça et qui veut toujours avoir raison, en réalité, il a une petite estime de lui-même. Et sa manière de pas le cacher, sa manière de pas le montrer, eh ben, c'est de faire croire à son savoir, de faire croire que lui, il est au-dessus des autres. C'est comme ça qu'il cache, en réalité, une faible estime de soi. Parce que quand tu as une bonne estime de toi, tu n'as pas besoin de le clamer sur les toits. Tu n'as pas besoin de revendiquer quoi que ce soit. Tu sais qui tu es. Amen. La Bible nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais qu'il fait grâce aux humbles. C'est dire qu'il y a plus de bénéfices à retirer de l'humilité que de l'orgueil. Malheureusement, beaucoup n'y voient pas le piège et leur vie en subit toutes les connaissances, toutes les conséquences. L'orgueil précède le désastre et un esprit arrogant précède la chute, nous dit la Bible. L'orgueil est incapable d'apprendre du passé, de comprendre les événements actuels et d'en tirer les leçons pour l'avenir. La personne est hypnotisée par elle-même et il est impossible de discuter avec elle. Elle court inévitablement à sa perte. Elle n'est pas enseignable. Ne perdez pas votre temps en essayant d'argumenter avec ces personnes-là. Ils ne peuvent pas avoir tort. C'est impossible. Ils se sentiraient ridicules d'avoir tort, de se remettre en question. Il faut toujours, toujours qu'ils aient raison. Pas la peine de discuter avec eux. Je leur dis, mais si tu as raison, tu as raison. Il n'y a pas de problème. Il faut bien le reconnaître. Cela nous concerne tous à des degrés différents et constitue l'explication la plus plausible de nos échecs et de nos erreurs à répétition. Ne pas apprendre du présent, du passé. Ne pas apprendre des enseignements que nous pouvons retirer de nos erreurs. Dire, waouh, Seigneur, comment j'agis là? Comment je fais? Et reproduire sans arrêt les mêmes choses. C'est une forme d'orgueil. Alors nous avons humblement demandé à Dieu. Et moi je vous dis, demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira la porte. Car quiconque demande, reçoit. Qui cherche, trouve. Et l'on ouvrira la porte à celui qui frappe. Voilà la parole de Dieu. Demandez et vous recevrez. Et ce soir, c'est ce que nous faisons. Nous demandons à Dieu d'intervenir dans notre vie. Certains voient la prière comme un rituel, une série d'incantations ponctuées de paroles répétitives, souvent ennuyeuses. Plus que tout, la prière constitue une rencontre, un échange, un moment où s'établit une relation intime avec Dieu, qui peut et veut répondre à nos requêtes les plus ardentes. Et là, c'est là qu'on rencontre la prière et la foi. C'est là qu'on rencontre notre foi. Parce que tout est possible à Dieu à l'instant même. À l'instant même, on peut être guéri. À l'instant même, en ayant une foi solide, une foi qui ne doute pas, une foi qui ne commence pas à mélanger du rationnel, de l'intellectuel avec ce qu'on demande. On dit, Seigneur, je crois que tu vas le faire. Tu es capable de le faire, je crois. Amen. À plusieurs reprises, Jésus mentionne que le croyant peut parler à Dieu comme à un père. Quand vous priez, dites « Père ». À cause d'une mauvaise estime de soi, toujours pareil, à cause d'une mauvaise estime de soi, certains chrétiens sont habitués à l'idée que Dieu est distant et peu intéressé en ce qui concerne le sort de leur personne. C'est une déformation de qui est Dieu. Dieu aime tout le monde. Et de la même manière, il n'y a pas de chouchou. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dieu aime tous ses enfants. Il n'y a pas de préférence. C'est le problème, c'est toi qui as le problème. C'est toi qui crois que tu n'es pas assez bien pour que Dieu s'occupe de toi. Tu crois que tu n'es pas assez bien pour que Dieu réponde à ta prière. Arrête avec ça. Enlève ça, ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas ce que dit la Bible. La Bible dit que celui qui croit, il sera sauvé, que tout est dans la foi. Ce n'est pas une question de qui tu es, ce n'est pas une question de statut. On n'est pas dans le monde, dans ce monde-là. Ce n'est pas une question de est-ce que tu es quelqu'un qui a une position sociale, est-ce que tu es quelqu'un qui a de l'argent, est-ce que tu es quelqu'un qui a du talent ou quoi que ce soit. Non, Dieu t'aime comme tu es, point barre. Et il répond à la prière. La seule condition pour Dieu, c'est la foi. Les paroles de Jésus à ses disciples nous montrent tout autre chose. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Nous avons un papa, un vrai, un papa parfait. Un papa qui nous aime et qui veut le meilleur pour chacun d'entre nous. Tu es son enfant. Tu es son enfant. Crois-le. Tu as été adopté. Nous pouvons dire « Abba Père ». C'est un Dieu d'amour, un Dieu de proximité. Il te donnera l'amour que personne ne peut te donner. Il est là, il est ton refuge. Quand tu as mal, quand tu souffres, quand tu te sens seul, il y a un endroit qui s'appelle le refuge. Et c'est ses bras d'amour. Et tu peux venir tout le temps, quand tu veux, il est là pour toi. C'est l'image du fils prodigue. Tu crois que le fils prodigue méritait, suivant les règles de ce monde, tu crois que le fils prodigue méritait que Dieu court vers lui, l'accueille avec les bras ouverts? Ben non! Il aurait mérité une punition bien comme il faut. Mais ce n'est pas la vision de Dieu. Dieu ne regarde pas tout ça. Tu viens repentant au Seigneur, il t'accueille dans ses bras et il te donne l'amour que tu as besoin. C'est cet amour-là qui va te guérir. C'est cet amour-là qui va combler tes carences. Ne sois pas dans l'illusion qu'un être humain va combler tes carences. Tu seras déçu. Le seul capable, et là c'est spirituel, tu as été formé spirituellement et tu as besoin d'une réponse spirituelle. Et c'est parce que tu viens à Dieu que lui a le pouvoir de te guérir. C'est une réponse spirituelle que tu as besoin, pas une réponse terrestre, pas une réponse humaine. Tu seras toujours déçu avec une réponse humaine, mais tu seras comblé avec une réponse de Dieu. Jésus utilise trois verbes d'action, demander, chercher et frapper. Il y a une dimension d'insistance, demander et ne cessez pas de demander, ou encore chercher et persévérer dans votre recherche. Enfin, frapper et insister, on vous ouvrira la porte. Dieu s'attend à ce que vous soyez actif et non passif dans votre relation avec lui. Vous verrez qu'il n'y a pas de plus grand soulagement que de découvrir que Dieu est là pour vous et qu'il n'est ni aveugle pour ne pas voir votre condition et l'ignorer, ni sourd à vos demandes. Voilà pourquoi à cette étape, vous allez demander. C'est pour ça que ce soir, nous allons demander. Amen. Et nous allons demander avec foi, avec une foi qui ne doute pas, avec une foi qui est assurée d'un amour inconditionnel pour chacun d'entre nous. L'exaucement de vos prières générera une joie sublime, tout en fortifiant votre foi et votre confiance en ce que Dieu vous aime. À chaque fois qu'on a exaucé, que Dieu a exaucé une prière, ça a été pour nous l'occasion, un, de réjouissance, et deuxièmement, ça a été une occasion de faire grandir notre foi. Waouh, Dieu a répondu à ma prière. Merci Seigneur. Et chacun de nous, on a pu l'expérimenter. Dieu exauce les prières. De faire disparaître tous nos défauts. Quiconque a été gravement malade ou blessé sait que ce que c'est que d'avoir besoin des autres et de dépendre d'eux. C'est une véritable leçon d'humilité que de se retrouver alité, malade, incapable de bouger ou de prendre soin de soi. Même les besoins les plus simples doivent être satisfaits par quelqu'un d'autre. À la septième étape, nous comprenons que nous sommes malades et que le seul à pouvoir répondre à nos besoins, c'est Dieu. Chaque étape jusqu'à présent a renforcé le même thème. Nous sommes incapables, mais Dieu est capable. Nous avons pour de bon abandonné l'illusion que nous pouvons nous aider nous-mêmes. Nous sommes donc impuissants et humbles sur le lit de notre maladie et nous prions simplement, Dieu, s'il te plaît, fais disparaître mes dysfonctionnements et viens combler mes carences. Pour cela, nous ne devons rien lui cacher. Les 12 étapes utilisent une variété d'appellations pour décrire les problèmes auxquels nous sommes confrontés avec nous-mêmes. Et certains de ces mots sont nous avons des torts, nous avons des défauts, nous avons des faiblesses, nous avons des lacunes, des vices, des dysfonctionnements, nous avons des addictions, etc., etc. Peu importe la formulation, chaque mot met l'accent sur un aspect légèrement différent de ce qui est à la source de nos problèmes. Ce que nous demandons à l'étape 7, c'est la suppression de tous ces problèmes. Nous ne demandons pas d'aide pour nous y adapter ou pour mieux apprendre à les gérer. Nous ne voulons ni apprendre à les accepter, ni à continuer à vivre avec eux. Nous voulons qu'ils disparaissent une bonne fois pour toutes. Et c'est avec cette démarche d'humilité que nous allons accepter la manière dont Dieu va s'y prendre. Accepter la souveraineté de Dieu et lui faire confiance. Dieu fait comme il veut et quand il veut. Et il a ses raisons que nous ne pouvons pas toujours comprendre. Certaines de nos prières peuvent être accordées ce soir, rapidement, tout de suite, tandis que d'autres peuvent nécessiter de la patience et de la persévérance. Lorsque nous sommes découragés ou frustrés par les délais de réponse de Dieu, que le temps semble long et interminable, la tentation est grande de reprendre le contrôle de notre vie et de mettre Dieu de côté. Mais ce qui est très bénéfique et nous permet de rester dans la foi, c'est de passer en revue le travail que nous avons accompli au cours des étapes précédentes et de considérer les fruits que nous avons déjà recueillis. Il n'y a rien de plus encourageant que de voir nos progrès. Amen. Cela nous aide indéniablement à nous rappeler à quel point la meilleure chose qui puisse nous arriver, c'est de nous trouver sous la protection de Dieu. L'élimination de nos défauts est maintenant entre les mains de Dieu. On peut lui faire confiance pour faire du bon travail, car il est fidèle et se soucie réellement de nous. Amen. Il y a une progression, il y a un processus de guérison. On était ce qu'on était, Dieu connaît notre vie, on lui a montré notre vie de ce qu'on voulait changer, on lui a rien caché et Dieu fait son travail avec nous. Il y a des délivrances instantanées et il y a une guérison qui prend du temps. Et ça, c'est l'affaire de Dieu. Certains sont venus à Dieu, ils ont été délivrés instantanément de la cigarette, d'autres de la drogue, d'autres de l'alcool, d'autres ont pris plus de temps pour une guérison intérieure parce que c'était profond, il y avait un travail profond à faire et ça a pris du temps. D'autres avaient un fardeau qu'ils n'arrivaient pas à s'expliquer et ils sont venus à Dieu et Dieu a enlevé leur fardeau. Dieu fait comme il veut et il a ses raisons. Mais il veut le meilleur pour chacun d'entre nous. Voici quelques sujets de prière que nous allons mettre en avant pour les prochains jours. Demandons à Dieu d'ôter tout ce qui peut nuire à notre vie et à nos relations, de nous montrer les blocages ou les défauts que nous devons abandonner, de nous aider à guérir des blessures du passé, des sentiments de peur, de culpabilité, de honte ou de colère, d'ôter la douleur et le chagrin qui leur sont associés, de mieux gérer nos émotions, de laisser au passé ce qui appartient au passé, de nous aider à nous débarrasser de nos croyances négatives qui affectent la façon dont nous nous voyons dont nous percevons les autres, de nous délivrer des peurs qui nous emprisonnent, de nous enlever les racines profondes qui génèrent nos conduites et nos actions, de nous libérer de notre mauvaise estime de nous-mêmes, d'apprendre à nous aimer, à nous pardonner, à réaliser que nous sommes des merveilleuses créatures dont nous pouvons être fiers. Évidemment, cette liste n'est pas exhaustive. Il vous faudra prendre un moment pour vous arrêter, réfléchir plus profondément sur ce que vous devriez lui demander dans les détails, et pour cela, vous pouvez vous servir de votre inventaire. Persévérez humblement dans votre cheminement. Vous avez déjà fait plus de la moitié du parcours, alors courage, courage, largue pas, tiens bon. Le défi, c'est de demander, ok? Et le mot-clé ce soir, c'est humilité. C'est-à-dire, c'est en toute humilité que je viens te demander d'enlever mes dysfonctionnements, mes défauts. Seigneur, je veux grandir avec toi. Amen. On va prier quelques instants. On va écouter ce chant qui parle des chaînes brisées. Et ce soir, on va demander à Dieu, dans nos prières, de briser les chaînes. Et on s'attend à un miracle ce soir. On s'attend à une intervention divine de Dieu. Chacun de vous, mettez votre foi en action. Et tous ensemble, notre foi réunie, Dieu va intervenir dans notre vie ce soir. Le Saint-Esprit va intervenir dans notre vie. Et ce soir, attends-toi au miracle de Dieu. Prends un temps sérieusement. Prends un temps passionné dans ta relation avec Dieu. Et ce soir, demande à Dieu ce que tu veux qu'il te fasse. Et il va le faire. Il va le faire ce soir. Attends-toi à Dieu.